Est-ce que vous avez envie d'entendre Dieu vous parler? C'est une question, ça. C'est une vraie question. Pas une question d'introduction, de politesse. Je le répète. Est-ce que vraiment vous voulez que Dieu vous parle? Alors on va lire un texte. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16 et au verset 16. Je ne suis peut-être pas positif ce matin, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a envie que Dieu lui parle. Vous allez le comprendre, je pense. Genèse, chapitre 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. 13 ans plus tard. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, n'était-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Et je relis ce verset. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu avait, vous avez vu, tout un tas de choses à dire à Abraham. De la même manière que Dieu a tout un tas de choses à nous dire. Vous avez vu qu'il y a des instructions concernant sa vie spirituelle, soit intègre, des instructions concernant ses enfants, des instructions concernant son épouse, des instructions le concernant à lui, des instructions spirituelles. Il y a tout un tas de choses que Dieu veut lui dire. Et je crois que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu a tout un tas de choses à nous dire. Prenons-nous le temps que Dieu nous parle, ou notre prière est-elle qu'un monologue? C'est-à-dire que je parle, je lui dis tout ce que j'ai à lui dire, j'ai plein de choses à lui demander, j'ai plein de choses à lui réclamer, j'ai plein de choses à lui dire, et je fais-le, et fais ceci, et bénis ceci, ça peut durer longtemps, et une fois que j'ai fini de parler, voilà Seigneur, en vérité, bon, j'ai pas beaucoup de temps pour t'écouter. La prière de beaucoup de chrétiens n'est pas une communication avec Dieu, mais tout simplement un monologue. Et je suis persuadé que même parmi nous, alors que je traite ce sujet très souvent, beaucoup de chrétiens en sont là. C'est un monologue. Ils parlent. Et quand ils ont fini de parler, amen, c'est fini. Est-ce que j'ai envie de prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à me dire? Mes frères et sœurs, je voulais introduire avec la façon dont Dieu a préparé la venue de Jésus en préparant Jean-Baptiste et en demandant à Jean-Baptiste de préparer le peuple. Vous savez, il y a toute une préparation et nous ne nous rendons pas compte le nombre de fois où dans la Bible, Dieu nous demande de nous préparer, non seulement à le rencontrer, parce que ça c'est quand même un commandement solennel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vois ces jeunes qui ne sont pas encore convertis, ou certains de nos enfants, ou peut-être vous, qui êtes là et qui n'avez pas encore cédé. Vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans l'église. Tiens donc, pourquoi sommes-nous dans l'église ce matin? Pourquoi avons-nous accepté Jésus-Christ? Pourquoi avons-nous pris le baptême? C'est une question à laquelle on peut répondre. Pourquoi j'ai pris le baptême il y a tant d'années? Est-ce que j'ai pris le baptême parce que je ne veux pas aller en enfer? Est-ce que j'ai pris le baptême parce que je veux célébrer la gloire de Dieu, selon Éphésiens, qui dit que Dieu nous a sauvés pour que nous servions à célébrer sa gloire? Ces deux réponses, elles sont un petit peu succinctes, mais quand même, vous devez pouvoir répondre pourquoi je suis chrétien, pourquoi je suis ici. Bien sûr que je pense qu'on a tous pris l'engagement de marcher avec Dieu parce qu'on ne veut pas aller en enfer, c'est clair, je pense. Il y a quand même une grande vérité. Mais il y a des chrétiens, ça s'arrête là. Ils ne veulent pas aller en enfer, servir à célébrer la gloire de Dieu. Quelle affaire. Mais moi, je vous dis que le Seigneur nous a sauvés pour nous faire éviter l'enfer, mais pour que nous servions à célébrer sa gloire. Vous voulez célébrer la gloire de Dieu? C'est un très grand sujet, ça, de vouloir célébrer la gloire du Seigneur. Nous croyons que bientôt Jésus va revenir. Vous le croyez que Jésus va revenir? Vous savez, on est vraiment arrivé dans ce temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine. C'est une prophétie qui date de 2000 ans. L'apôtre Paul a dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Le temps me manque ce matin, je ne pense pas que c'est forcément utile, mais ça serait quand même intéressant d'entendre, que vous entendiez ce que j'ai entendu dans la semaine par rapport à certains chrétiens qui ne supportent plus la saine doctrine. Ils veulent bien la bénédiction, ils veulent bien que Dieu leur fasse grâce, etc. Ils ne supportent plus la saine doctrine. Et on verra peut-être prochainement ce texte où quand il est dit dans les derniers jours, les gens seront blasphémateurs, etc., égoïstes. Vous savez ce qu'on fera? On fera quelque chose de simple. On prendra chaque mot et on regardera ce que la Bible dit, la définition de ces mots. Et je vous assure que certains chrétiens, vous allez tomber sur le derrière à l'explication de cette prophétie biblique, l'égoïsme. Je peux vous assurer que certains d'entre nous, nous ferions attention à regarder ce que ça veut dire. Nous sommes dans ce temps où les gens ne supportent pas la saine doctrine. Les gens, et je le vois, parce que dans l'église, par exemple, ça m'est arrivé régulièrement, hélas, de reprendre des gens, 9 sur 10 sont partis. Ils n'ont pas supporté. Pas supporté qu'on a dit, non, là, vous vivez dans le péché, il vous faut en tenir compte. Oui, ce sont des choses quand même. C'est le minimum qu'un pécheur arrive dans plein de péchés, qu'un nouveau arrive plein de péchés. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Laissez-les venir à moi. On doit laisser venir les nouveaux, quel que soit, si vous êtes tout nouveau, que vous êtes dans votre misère, tout ça, vous inquiétez pas. Si vous avez soif, Dieu vous délivrera. Mais si vous êtes chrétien, vous devez accepter que l'on vous dise les choses, Que Dieu vous dise les choses qu'il a à vous dire. Pas que moi, mais que Dieu vous dise les choses qu'il a à vous dire. Qu'a dit le Seigneur dans cette affaire de ne pas supporter la sainte doctrine à Timothée? Il lui a dit, écoute, prêche la parole. C'est ce qu'il lui a dit. C'est la solution. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, nous devons nous préparer à faire les œuvres de Dieu, ses œuvres à lui. Comment pourrons-nous faire les œuvres de Dieu si le Seigneur ne nous parle pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible d'arriver à faire quelque chose si on ne sait même pas ce que Dieu veut que l'on fasse. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ils n'ont pas eu peut-être ce réflexe de dire comme Paul, mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Paul parle, quand il parle aux Corinthiens, il dit, mais est-ce que vous vous assemblez? Non pas pour devenir meilleur. Vous connaissez ce texte? À des chrétiens, c'est des chrétiens, c'est des vrais chrétiens. Et pourtant, il est obligé. Bon, il s'est mélangé parce qu'à des moments, il les loue, à des moments, il leur fait des reproches. Ils avaient fait des progrès dans certains domaines, mais à un moment donné, il dit, mais je ne vous loue pas. Parce qu'à la place de vous assembler pour devenir meilleur, vous devenez pire. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Et pourtant, c'est ce qui arrive chez certains chrétiens. La preuve, quand vous discutez avec eux, vous voyez qu'ils n'ont pas fait des progrès. Alors, est-ce que je veux vraiment que Dieu me parle? Est-ce que mon cœur ce matin est disposé? Il n'y a que Dieu, il n'y a que vous qui savez. Si votre cœur est disposé, il y a des gens parfois, « Oh, ce matin, il n'y avait pas Dieu. » Mais c'est vous qui n'étiez pas. Vous y étiez physiquement, mais vous n'y étiez pas spirituellement. Parce qu'il ne faut pas être gêné pour dire, « Je n'ai pas senti la présence de Dieu. » Je peux vous dire que moi, le Seigneur, il est là. Et il y a des gens qui n'y sont pas. Ils sont là physiquement parce qu'ils sont venus, mais je peux vous dire que spirituellement, ils sont vraiment ailleurs. Et est-ce que mon cœur est bien disposé? Est-ce que vraiment ce matin, je suis là et je dis, « Seigneur, parle-moi. » Ce que tu as à me dire, dis-le-moi. Je suis venu comme David à un moment donné avec un cœur bien disposé. Seigneur, dispose mon cœur à cette attitude de grâce. Je ne veux pas être léger dans les choses spirituelles. Parce que moi, je vous dis que Dieu a le désir de visiter l'Église. Est-ce que vous croyez que Dieu a le désir de marcher au milieu de nous, de délivrer les chrétiens? Il y a des chrétiens qui se traînent des casseroles depuis des années. Pourquoi? Vous croyez que ça amuse Dieu de laisser un chrétien se traîner dans son échec? Ben non. Dieu veut délivrer, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir. Vous le savez ça. Et il connaît les besoins du monde. Est-ce que Dieu connaît les besoins des perdus? Mais est-ce qu'il connaît les besoins des chrétiens? Et nous qui voudrions peut-être que Dieu fasse certaines choses parmi les païens, et ce qui est bien, il faudrait peut-être commencer à demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que vraiment tu veux faire? Alors, dans ce texte que nous venons de lire, oui, nous voyons quelque chose. Dieu parle à Abraham. Dieu veut lui parler. Vous avez remarqué que j'ai commencé ma lecture à partir du verset 16 du chapitre 16, où il s'était passé quelque chose, et que pendant 13 ans, Dieu n'a pas parlé à Abraham. 13 ans. Au verset 16, il a 86 ans, et au verset 1er du chapitre 17, il a 99 ans. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Parfois, il ne peut pas nous parler. Et c'est ce que je voudrais que nous retenions ce matin. C'est pour ça que j'ai commencé avec une question qui tient debout par rapport à toute la prédication. Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu nous parle? Car Dieu parle. Dès que vous lisez la Bible, dès que vous ouvrez la Bible, Dieu parle. Dieu dit et il crée ceci. Dieu parle. Vous le connaissez. Dieu est un Dieu qui parle. Alors, je vous encourage à lire le psaume 50. Marquez-le et margez le texte. Lisez le psaume 50. Hier soir, quand je priais, j'ai eu à cœur, on n'a pas le temps de l'aborder, mais il corrobore très bien la prédication. Méditez le psaume 50 et vous verrez pourquoi Dieu se tait. Vous le verrez. Méditez-le, le psaume. C'est un psaume qu'il faut méditer. Les idoles ont une bouche. C'est pas ce que Dieu dit. Et pourtant, elles ne parlent pas. Et pourtant, il y a des gens qui ont une attitude bizarre par rapport à la prière. Donc, entre la naissance d'Ismaël et le moment où Dieu va parler à Abraham, 13 ans se sont passés. 13 ans de silence. Ça vaut quand même la peine de se poser la question. Il avait reçu une promesse, parce que ça aussi, Dieu fait des promesses. Est-ce que vous en avez reçu des promesses dans la Bible? Dieu peut faire des promesses. Le temps a passé, et la promesse ne s'est pas accomplie. Donc Abraham a pris la décision d'exaucer la promesse, tout seul. Il a fait quelque chose qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il a demandé à sa servante de coucher avec pour qu'elle lui fasse un enfant, puisque sa femme était stérile. L'impatience. L'impatience, quand on veut faire les choses par ses propres forces. L'impatience, c'est un péché terrible. Parce que ça nous amène à dire, ah bon, Dieu ne le fait pas, eh bien moi je vais le faire. Je sais ce que j'ai à faire, moi. C'est pas bon signe, ça. Il faut savoir être patient, jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Vous savez, il y a des gens, ils sont forts pour inventer des méthodes pour que Dieu les exauce, de prendre les choses à main. Voilà, quand on fait les choses charnellement, quand on veut faire les choses avec ses propres forces, quand on joue des coudes pour être béni, c'est révélateur qu'il se pourrait que Dieu ne nous parle plus, parce qu'on veut faire les choses à notre guise. C'est exactement pareil quand on a été blessé par quelqu'un, qu'on dit « moi je vais lui renvoyer l'ascenseur », alors que la Bible nous dit que Dieu nous a donné un exemple, que Jésus nous a donné un exemple, que lorsqu'il était maltraité, il ne faisait pas de menaces, lorsqu'il était injurié, il s'en remettait à celui qui juge. Et croyez-moi, s'il y a bien un qui pouvait s'expliquer, c'est lui, il s'en remettait à Jésus. Le problème, c'est la patience. C'est un des gros problèmes dans l'œuvre de Dieu. Les gens sont tellement pressés de voir Dieu faire, de voir Dieu agir, de voir Dieu exaucer la promesse, qu'ils font les choses charnellement. Si Abraham s'est fait piéger, laissez-moi vous dire que ça nous prend tous au nez de vouloir faire les choses par nos propres forces. Et ça, c'est un problème. Dieu va se taire pendant 13 années. Pourquoi ? Eh bien, pour l'éduquer. Parce que quand Dieu se tait, croyez-moi que c'est une véritable éducation. C'est une véritable formation. Et il faut commencer à accepter le fait que Dieu puisse se taire. Est-ce que vous acceptez ? Parce que j'ai vu, c'est biblique en plus, que lorsque Dieu ne parle pas, les gens s'autorisent à faire à leur façon. Croyez-moi, mes frères et sœurs, apprenons à écouter le Seigneur. Parce que cette rupture, ce silence peut amener les gens à faire n'importe quoi. Prenez l'exemple de Saül. Vous connaissez Saül, le roi d'Israël, cet homme qui a commencé très 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 bien et qui a fini très 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 mal. Vous avez vu comment cet homme a commencé. Et quand il a consulté Dieu pour avoir une direction, Dieu ne lui a pas parlé. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la résumer. Dieu ne lui a pas parlé. Et comme Dieu ne lui a pas parlé, vous savez ce qu'il a trouvé à faire, de mieux à faire ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a consulté une sorcière. Voyez un petit peu comment il était en état de rupture avec Dieu. Quand vous voyez la fin de cet homme qui a si bien commencé, voyez ce qui peut arriver lorsque Dieu ne nous parle pas et comment on peut réagir et comment on peut se comporter et comment ça peut finir très mal. Il aurait dû écouter Samuel quand Dieu lui a parlé. Il n'a pas voulu le faire, bon, la fin de sa vie. C'est bien de prendre quelques exemples pour vous expliquer que même si Dieu permet ces temps de rupture, c'est pour nous enseigner certaines vérités. Quand Pilate a appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, vous connaissez le procès tout ça, il était bien content, il a envoyé Jésus donc à Hérode parce que ça l'arrangeait bien que ce soit Hérode qui s'occupe du problème. Bon. Et quand Hérode a vu Jésus, vous connaissez le texte, Hérode était super heureux. Il y fut plein de joie. Il voulait voir Jésus faire des miracles. Lui, le roi Hérode, s'imaginait que Jésus était à ses pièces. Il lui a posé plein de questions. Vous connaissez. Et qu'est-ce que Jésus a répondu ? Rien. Vous croyez que Jésus était en train de bouder ? Non. Jésus ne lui a rien répondu. Il est là devant le roi des rois. Il ne sait pas. C'est pas. J'espère que nous savons que dans la maison du Seigneur, nous sommes devant le Seigneur Jésus. Nous aussi. Moi avec. Est-ce que vous savez que nous sommes devant le roi des rois ? Par sa parole. Il est là et Jésus ne lui dit rien. Il y a des gens qui ont dit toutes sortes de danneries par rapport au silence de Jésus. Le Seigneur ne lui a pas répondu. Pourquoi ? Pourquoi Jésus ne lui a pas répondu ? C'est facile à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois avant ? Quelques mois avant, M. Hérode avait décidé de vivre avec une femme avec laquelle il ne devait pas vivre. Et Jean-Baptiste, homme de Dieu, va le trouver et va lui dire « Écoute, il ne t'est pas permis de vivre avec cette femme. Tu es dans l'adultère. Mets ta vie en ordre. » C'est ce qu'il lui a dit en français d'aujourd'hui. Et pourtant, Hérode aimait Jean-Baptiste, il aimait se retrouver avec lui, il aimait entendre la parole de Dieu. C'est écrit ça, qu'il aimait beaucoup être avec Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé mieux de faire ? Qu'est-ce qu'il a fait faire, quelques mois après? Il a fait tuer, décapiter Jean-Baptiste. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient le faire, je pense qu'il y a beaucoup de pasteurs qui auraient été raccourcis. Je le pense vraiment. Si certains pouvaient le faire, c'est bien. Jésus ne lui a rien dit parce que Dieu lui avait déjà parlé de mettre sa vie en règle et il ne l'a pas fait. Cet enseignement est très sérieux. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que nous avons vraiment envie que Dieu nous parle? Parce qu'il vous a déjà peut-être parlé, il y a un mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans. Alors là, on est dans le danger grave. Mais Dieu vous a parlé, vous avez mis ça sous le coude et c'est fini. Et de la même manière que ce matin, par sa parole bénie, nous sommes devant le roi des rois. Je vous dis, de sa part, que si nous n'avons pas mis notre vie en règle, quand nous le prierons, quand nous lui demanderons quelque chose, il ne nous répondra pas. Vous savez que Dieu ne fait pas 2 poids, 2 mesures. Le Seigneur Jésus aurait certainement parlé à Hérode si Hérode lui avait dit « Ah, maintenant que je suis avec toi, je réalise mon péché. » Parce que tout roi qu'il était, il pouvait descendre de son trône et dire à tout son staff « Bon, le roi, c'est pas moi ici. Moi, je suis que de passage. Le vrai roi, il est là. » Les choses se seraient passées certainement différemment. Quand on commence à dire « Oui, oui, bon, je suis ce que je suis. » Quand on commence à parler ainsi, c'est comme quand Jésus a dit à Pilate « Mais tu le demandes de toi-même si je suis le Christ ou c'est quelqu'un d'autre qui te l'a dit ?» On ne sait même pas, il ne savait même pas ce qu'il voulait. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que la question, je ne l'ai pas posée pour piéger qui que ce soit, mais je la pose très solennellement. Est-ce que nous voulons que Dieu nous dise ce qu'il a à nous dire jusqu'à ce qu'il ait achevé de nous parler, comme on l'a vu dans le verset 22, où Dieu avait donné tout un tas d'enseignements à Abraham, qui, après 13 ans de silence, était certainement revenu dans des dispositions bonnes pour que Dieu lui parle. Si vous aimez la désobéissance, le Seigneur ne vous parlera pas. Vous pouvez dire, oui, Dieu m'a parlé, il m'a fait du bien, j'ai lu un verset, comme ça. C'est pas sérieux, vous prenez la Bible, vous allez voir, je vais le faire. Moi, ça ne me fait pas rire. Hein. Parce que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont construit leur communion avec le Seigneur. Alors ça vous fait rire parce que bon, c'est la façon dont je fais, qui est risible. Mais ce n'est pas marrant du tout. Parce que ça vous montre la légèreté avec laquelle les gens s'approchent de Dieu. Et peut-être que vous n'avez pas fait décapiter les Jean-Baptiste, mais peut-être qu'il y a longtemps que vous avez pris la décision de ne faire que votre volonté, que votre propre volonté. Et je pense que quand même, si on était sérieux, on va prendre la Sainte-Seine ce matin, on est quand même, si on est objectif, c'est même pas spirituel, on est conscient, compte tenu de ce qui est dit dans la Bible, que nous sommes devant le roi des rois. Oui ou non? Est-ce que le Seigneur vous voit? Est-ce que le Seigneur me voit ce matin? Et je pense que nous devons vraiment, vraiment faire attention. Cette semaine, j'ai failli prêcher sur un autre sujet. Parce que je pensais à l'adultère moral et l'adultère spirituel. Je fais une parenthèse, vous allez avoir 2 prédications dans une. Cette semaine, je pensais à l'adultère spirituel. Et j'ai pris des textes, bien sûr, comme chaque pasteur doit le faire, sur l'adultère. Et je pensais à ce texte dans le livre des Nombres, où lorsqu'un homme soupçonnait sa femme d'avoir commis l'adultère, je ne sais pas si vous avez lu ce texte, je crois que c'est le nombre 5. Lorsqu'un homme soupçonnait sa femme d'avoir commis l'adultère, il l'amenait au temple, devant le sacrificateur. Le sacrificateur prenait un vase de terre, il le remplissait d'eau. Dans ce vase-là, il prenait de la poussière du tabernacle, il le mettait dans le vase. Et là, debout, cette femme, devant le sacrificateur, devait boire le contenu de ce vase avec de la terre et de l'eau. Et si la femme avait commis l'adultère, son ventre enflait et sa cuisse séchée. Bon, c'est des choses qui nous paraissent un peu bizarres. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, oula, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est facile à comprendre. Le vase, c'est nous le vase. Vous le savez que la Bible, les symboles de la Bible, quand on les connaît, c'est facile. Nous sommes des vases de terre. Dans ce vase, il doit y avoir de l'eau pure. D'accord. Et l'adultère, c'est quand on commence à mettre dans notre vie les choses de la terre, de ce monde. Vous me suivez? C'est ça l'adultère. Quand dans notre vase, nous acceptons, nous tolérons la terre, les choses de la terre. Bon, on ne va pas expliquer, vous avez compris. À ce moment-là, la femme était un objet de malédiction. Mes frères et sœurs, très sérieusement, est-ce que nous voulons vraiment nous placer devant Dieu et lui demander qu'il nous purifie, qu'il nous lave, que notre vase, parce que nous sommes des vases, nous ne sommes que des instruments, est-ce que vraiment nous voulons que notre vase soit un objet de bénédiction ou un objet de malédiction? Nos enfants, on en a des enfants. Est-ce que nous sommes pour eux? Je vais prendre une expression biblique parce qu'il faut que les choses soient bibliques. Paul, c'est Pierre qui dit, ce sont des enfants de malédiction. Ah, il parle de chrétiens, vous le verrez, je sais que vous me croyez. Il parle de chrétiens. Ce sont des enfants de malédiction. Lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il peut nous parler, qu'il n'a pas estimé qu'un temps de silence devait être nécessaire pour nous éduquer, nous former, quoiqu'il nous fait grâce en même temps, mais quand même, voyez, bon, c'est clair quand même, là, on sent que Dieu voulait former Abraham au travers du silence, comme Dieu a formé Joseph au travers de 13 années de silence, également. Et accepter les silences de Dieu, parce que ce n'est pas parce que Dieu se tait qu'il n'agit pas. Est-ce que vous croyez que même si Dieu ne parle pas, il peut agir quand même? Un peu. Si vous voulez des exemples, je vous les donnerai. Mais Hérode est passé à côté. C'est un truc de fou. Réfléchissez. Recevoir dans son palais le roi des rois. Ce n'est pas une bénédiction. Chaque fois qu'on ouvre la Bible, on se trouve en vérité, si on est un petit peu sérieux, chaque fois qu'on ouvre la Bible, on est en présence du roi des rois. Oui ou non? On est sûr. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre communion avec Dieu, ça se résume à un monologue, c'est clair que ça va être très light, votre affaire. Si votre souci, c'est de dire, mais Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je peux vous dire que votre vie spirituelle ne va pas s'arrêter à un monologue. Et il y a des trucs que j'entends depuis 15 ans ici, pour certains, Monsieur Gauche, j'ai pas le temps de prier. Mais si pour vous, vous acceptez le fait que vous n'avez pas le temps, mais c'est vraiment grave. Vous voyez que vous n'ayez pas le temps de discuter avec le boulanger par rapport à ses affaires, que vous n'ayez pas le temps de discuter avec le responsable politique qui est venu vous distribuer. Bon, c'est pas grave. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir de temps pour certaines choses. Mais si vous dites, écoutez bien mes frères et sœurs, si vous dites, depuis 6 mois, déjà c'est grave 6 mois je trouve, parce que c'est comme ça qu'on enclenche dans la vie rétrograde, mais si depuis 1 an, 2 ans, ah monsieur Gros, j'ai pas le temps, mon boulot, mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est le diable qui vous a aveuglé, si le diable c'est trop fort, les choses du monde, ça, si ça vous rassure. Mais que ce soit les choses du monde ou que ce soit le diable, de toute façon le résultat c'est le même. Et quand on voit comment Saül a terminé, cet homme de Dieu, c'était vraiment quelqu'un, Saül. Quand on voit comment Hérode est passé à côté d'une bénédiction extraordinaire, ça tenait à rien d'être humble, de dire oui, c'est clair, écoutez, arrêtez, je veux, sortez tout le monde, je veux rester seul avec Jésus, j'ai un truc à régler. Il aurait pu le faire. Sortez, mais moi, je l'aurais fait. Enfin, je pense que je l'aurais fait. Je vous dis, écoutez, sortez tous, sortez, je veux être seul avec le Seigneur Jésus. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'on peut tous commettre des erreurs. Mais nous devons mettre notre vie en ordre. Abraham avait besoin d'instructions pour sa femme, pour lui, pour ses enfants, pour Ismaël, pour son intégrité, pour les choses spirituelles par rapport à la circoncision. Vous relirez le texte et vous verrez que Dieu voulait lui parler. Et je suis persuadé que Dieu veut nous parler par rapport à nous-mêmes, ce que l'on doit faire. Moi, je peux vous dire que l'histoire du film là, que je vous ai raconté, je peux vous dire que Dieu m'a parlé. Parce que je voulais que Dieu me parle. Je vais vous dire la vérité. J'en avais marre de Parce que préparer des prédications, au bout de 30 ans, vous comprendrez que ce n'est pas le truc le plus difficile pour un pasteur. Vous le comprenez, heureusement. C'est comme si vous demandez à un boulanger qui fait du pain depuis 30 ans, est-ce que c'est difficile pour vous de faire du pain? Vous voyez, mais il n'y a rien de plus facile. Pour moi, préparer des prédications, c'est un plaisir. Mais j'ai compris que ce n'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je cherche la présence de Dieu et non pas des prédications qui feraient du plaisir un peu aux gens. Et Dieu m'a parlé. Je vous assure, Dieu m'a parlé. Un ange serait venu me parler, ça aurait fait le même effet. Dieu m'a parlé et m'a montré mon hypocrisie. Enfin, si je vous raconte tout ce que Dieu m'a montré, vous ne me gardez plus comme un pasteur. Donc, je dis rien. Mais franchement, mes frères et sœurs, quel que soit le temps qui a passé, où Dieu a fait silence, dans sa sagesse, faites-lui confiance. Si Dieu ne vous a pas parlé, ne vous énervez pas. Si Dieu ne vous a pas parlé, dites-lui, je vais mettre ma vie en ordre. Il va vous aider, ne vous inquiétez pas. Cette prière-là, il va l'exaucer. Vous croyez que c'est une prière que Dieu va exaucer, ça? Si vous le dites, Seigneur, mais c'est qui ne va pas? Cette semaine, j'ai discuté avec une personne, peut-être vous êtes là, ne soyez pas offusqués. Une personne qui est chrétienne, baptisée, et qui vit dans le péché. Il dit, mais il vous faut choisir. Ou vous n'êtes pas converti, ou vous avez choisi, mais il vous faut choisir. Il vous faut choisir. Et il y a des gens comme ça, il peut dire, parle-moi. Moi, je vous dis, Dieu ne vous parlera pas. Dieu ne nous parlera pas tant que notre vie ne sera pas en ordre. Ne jouons pas les méga spirituels en pensant que Dieu parle à quelqu'un qui est dans le péché. Quand quelqu'un est dans le péché, Dieu lui dit, mets ta vie en règle. Oui ou non? Ne jouons pas les méga spirituels. Vous savez, Dieu m'a parlé. Ah bon? Et quand vous regardez la vie de la personne, ce n'est pas possible. En tous les cas, ce n'est pas biblique. Vous entendez, mes frères et sœurs? La seule chose que Dieu peut dire à quelqu'un qui vit dans le péché, c'est mets ta vie en ordre. Avec beaucoup d'amour et de tendresse, bien entendu. Un cœur bien disposé. C'est ça que Dieu demande. On va prendre la Sainte Cène. C'est vrai que ça fait plusieurs dimanches qu'on est obligé d'écourter les cultes, c'est peut-être un peu pénible, mais ce n'est pas grave en fin de compte. Il vaut mieux entendre ce que Dieu a à nous dire, tant pis si le culte est raccourci d'une demi-heure. Mais mes frères et sœurs, je pose la question. Qui a besoin de répondre? Ne levez pas la main, ne répondez pas haute voix. Mais la question, je pense qu'elle vient du Seigneur. Qui veut entendre la voix du Seigneur dans son cœur? Qui veut l'entendre? Qui veut entendre Dieu lui parler? Vous relirez ce texte, vous le relirez, et vous verrez, c'est clair. Est-ce que Dieu peut-être a quelque chose à vous dire au sujet de votre femme? Comment appeler votre femme? Alors commencez pas à dire, Monsieur Gaud nous a dit qu'il fallait changer le nom de notre épouse, ça commence à devenir compliqué les cultes. Vous savez, j'ai tellement entendu, on m'a fait dire tellement de choses. Mais il y a peut-être quelque chose que Dieu vous demande par rapport à votre femme, oui ou non? Quelque chose que Dieu vous demande par rapport à votre mari? Quelque chose que Dieu vous demande par rapport à votre vie spirituelle? Quelque chose que Dieu vous demande par rapport à la vie de l'Église? Alors c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il faut que ça passe par le début. Si votre vie n'est pas en ordre, mettez votre vie en ordre. Moi je l'ai fait, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'était des choses que tout le monde fait, mais je crois que quand on est appelé au ministère, de surcroît, on s'attache à son ministère. Et c'est quelque chose que vous découvrirez tout seul, parce que Dieu ne joue pas cache-cache. Si Dieu ne vous parle pas, c'est qu'il vous faut mettre votre vie en règle. Et une fois que vous aurez mis votre vie en règle, laissez-moi vous dire qu'il y a un texte biblique où Dieu va vous arrêter et Dieu va vous bénir. Parce que Dieu parle. Il parle pour faire des reproches, mais Dieu parle aussi pour des promesses. Vous voyez, il y a des promesses dans ce texte. Dieu fait des promesses. Mais il n'y a pas que les promesses. Et souvent, quand on vit dans le péché, on se gargarise de promesses. Comme ça, on s'imagine que Dieu est bon. Pour peu qu'on prenne le pain et le vin le dimanche, ça, alors là, ça couronne le tout. Je suis en communion avec Dieu. J'étais à l'église dimanche matin. Mais Dieu parle. Il parle pour consoler. Peut-être quelqu'un est dans le deuil. Est-ce que franchement, vous croyez que Dieu, c'est vraiment le grand consolateur? Est-ce que Dieu est capable de consoler? Est-ce que Dieu est capable de réconforter quelqu'un? Est-ce que dans un moment de communion avec Dieu, Dieu peut vous réconforter? Est-ce que Dieu peut vous relever? Vous instruire? Qu'est-ce que j'ai mis? Vous diriger? Vous conseiller? Les conseils, c'est ce que je fais ce matin. Je crois que c'est un conseil de la part du Seigneur. Vous corriger, vous encourager, vous convaincre, vous avertir, vous apporter une prophétie. Il parle. Et je voudrais que notre prière, vraiment notre prière, si vous la faites, Les choses changeront. La prière soit la prière du psalmiste qui disait, mais il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Et j'écoute comme écoutent les disciples. Ah, moi le matin, j'ai pas le temps, je suis toujours à la bourre. Eh bien, restez à la bourre. Mais moi, je peux vous dire que Dieu ne vous parlera pas et que vous ne changerez pas. Ce n'est pas sérieux, ça. Écoutez-le une fois pour toutes, ce n'est pas sérieux. Si on voit dans la Bible que chaque matin, le Seigneur doit éveiller notre oreille et que je dois écouter, c'est que Dieu a quelque chose à nous dire. Le soir, la journée, la fatigue, ce n'est pas facile les journées des fois. La journée, le soir, franchement, je ne sais pas si vous êtes mieux disposé le soir, mais moi, je peux vous dire que c'est quand même mieux le matin d'écouter les instructions du Seigneur. Il éveille chaque matin. On devrait en prendre de la graine de ce verset. On devrait en prendre. Alors, si vous pouvez, moi, je l'ai fait plus ou moins, parce que je sais que Dieu, dans sa grâce, m'a parlé pour que je parle à l'Église. Mais il y a des choses que Dieu voulait me dire, il n'a pas pu me les dire, à cause de ma légèreté. Et je sais très bien ce que j'ai à dire, enfin, pas toujours, mais enfin, je sais très bien ce que Dieu me dit pour l'Église et ce que Dieu me dit pour moi. Ce n'est pas toujours facile, mais j'y arrive. Mais si pour vous, acceptez depuis 13 ans, tiens, prenons 13 ans puisque c'était l'affaire d'Abraham, vous acceptez que Dieu ne vous ait pas parlé, à part d'entendre une exhortation, quelques conseils de la bouche d'un pasteur le dimanche matin, moi je peux vous dire que c'est grave. C'est grave. Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt. Dieu parle. Comment il a parlé à Abraham, là, je ne sais rien comment il a parlé. Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il y est apparu? Parce que plusieurs fois Dieu est apparu à Abraham. Est-ce qu'une fois il a parlé par un ange? Vous connaissez la façon dont Dieu peut parler à quelqu'un. Dieu peut parler dans une vision. Dieu peut parler dans un songe. Dieu peut parler par les épreuves. Est-ce que Dieu peut parler par les épreuves? Ben oui, heureusement. Et heureusement qu'on en a des épreuves. Je vous dis que le ciel est rempli de millions de gens qui ont souffert les derniers mois de leur vie et qui ont crié à Dieu parce qu'ils ont senti qu'on leur fait approcher. Ils sont partis nus spirituellement, sans récompense, sans rien, mais comme le brigand, Seigneur, sauve-moi, pardon, un mot, et ils sont partis sauvés. Le ciel doit être rempli de gens qui, au dernier moment, ont accepté Jésus parce qu'ils ont souffert. S'ils étaient morts d'un arrêt cardiaque, ils seraient tous en enfer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé, bien sûr. Samuel a entendu la voix de Dieu. Il a vraiment entendu la voix de Dieu. Il a entendu sa voix. Dieu peut parler par une prédication inspirée. Pas pour toutes les prédications. Ce serait trop facile. Mais est-ce que Dieu peut parler par une prédication inspirée? Est-ce que Dieu peut parler par un don spirituel? Bien sûr. Est-ce que Dieu peut parler par une conversation? Moi, je peux vous dire que si le frère que je vais vous présenter tout à l'heure vient pasteur en formation à Sainte-Agne, ça dépendra d'une conversation d'une minute. Dieu peut parler, il parle. Dieu a parlé à comment il s'appelle, Jonas, par un verre, un petit verre, qui a rongé le ricin, ça a contrarié le pasteur. Dieu a parlé à un pasteur avec un verre de terre. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est vrai.
Le problème, c'est pas la façon dont Dieu va nous parler, parce que Dieu peut parler par un événement. Mais est-ce que je suis attentif? Est-ce qu'on peut répondre à cette prédication? Mais c'est clair, c'est ma vie spirituelle, c'est un monologue. Je parle, et quand j'ai fini, au revoir Seigneur, j'ai pas trop le temps. Mais bénis-moi surtout. Est-ce que je veux être attentif? Parce que le moyen par lequel Dieu parle, c'est sa parole surtout. Vous êtes d'accord? S'il y a bien le moyen par excellence par lequel Dieu parle, c'est sa parole. Rien ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Elle doit être cette rosée. Et vous avez vu au verset, le verset 17 du chapitre 17. Et on termine quand même, parce qu'il faut terminer. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Peut-être que Dieu commence à vous parler. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Dieu vous dise tout ce qu'il a à vous dire? Vous avez vu comment Dieu condescend à descendre. Mais est-ce que nous nous rendons compte de la miséricorde du Seigneur qui condescend à venir nous parler? Comment Dieu a béni l'homme en envoyant Jésus-Christ? Parce que lui, il est descendu bien bas. Et comment Jésus est descendu? Il a été dépouillé de sa divinité, de sa gloire. Comment Jésus est descendu pour nous parler? Vous ne trouvez pas que c'est un acte d'amour et de bénédiction? Comment Jésus est descendu? Comment il est venu pour nous parler? Comment il est venu nous parler? Venez à moi. venez et recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Je voudrais que nous puissions, moi je voudrais en arriver là, que le Seigneur ait achevé de me parler, afin que j'entre dans une nouvelle étape dans ma vie spirituelle. Je ne parle pas dans mon ministère, bon, ça c'est évident, mais dans ma vie de chrétien, parce qu'avant d'être un pasteur, je suis un chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit, mais c'est clair Seigneur, je suis à côté, il faut que je réapprenne à savoir ce qu'est la prière. Ben, c'est clair, moi je crois qu'on veut faire l'œuvre de Dieu dans l'église, mais l'œuvre de Dieu se fera avec des gens spirituels à qui Dieu peut parler. Vous entendez mes frères et sœurs? Est-ce que vous aimeriez que Dieu s'élève parce qu'il a fini de nous dire tout ce qu'il a à nous dire? Ou est-ce que certains vont faire ce que l'on voit dans certaines églises? Quand l'heure arrive, ils s'en vont. C'est la demi, ils s'en vont. Moi je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas envie que Dieu leur parle. Alors c'est vrai qu'il faut être ordonné, tout ça, il faut l'être. Il faut l'être. Mais mes frères et sœurs, je termine avec la question que j'ai posée au début. Est-ce que nous voulons que Dieu nous parle? On peut fermer les yeux quelques instants? Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu nous parle? Je ne parle pas de prédication bien construite, tout ça, on s'en fiche carrément. Je ne pense pas que vous voulez un pasteur qui a un art oratoire. Je pense que vous voulez un homme de Dieu dans l'église. Je vais demander à monsieur de Dieu Norbert de choisir des frères. On leur retourne. Il nous reste un quart d'heure avant que ce culte ne s'achève parce qu'on a besoin de procéder à certaines choses. Mais au-delà de ce que Dieu veut faire dans l'église, au-delà de ce que Dieu veut faire comme œuvre, ses œuvres qu'il a préparées à l'avance, ses projets à lui, au-delà de cela, mon frère, est-ce que tu es comme Hérode, devant lequel le roi des rois n'a rien dit, parce qu'il n'avait pas été sérieux lorsqu'un pasteur lui avait dit « mets ta vie en règle ». Est-ce que vous êtes sérieux? Je me mets avec. Est-ce que nous sommes sérieux? Ou est-ce que nous tolérons le péché parce que Dieu est bon et miséricordieux et que Dieu est amour et que tout ça, ça s'achèvera super bien? Non, Dieu est saint. Et il demande que celui qui lui appartient marche dans la sainteté. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever, s'il vous plaît, à votre place. Faites-le maintenant. Faites-le devant Dieu, comme si Jésus était réellement là, que vous le voyez de vos yeux. Comment vous lèveriez-vous si Jésus était là, ses regards d'amour sur vous, ses regards de grâce, de miséricorde, de compassion, car je crois que Jésus a dû regarder Hérode comme il fallait, comme il devait le regarder à ce moment-là. Mais comment répondrez-vous à cette prédication? C'est pas moi qui ai besoin de la sortie. Oh, monsieur Gauss, c'est une... Non, je veux même... Ne me dites rien. Mais parlez-lui à lui. Répondez-lui à lui, parce que l'œuvre se fera avec des hommes et des femmes à qui Dieu parle. Car il n'y a rien de plus grand que d'avoir de l'assurance parce que Dieu nous a parlé. Par sa parole. Je reviens, par sa parole. Alors que ce pain et ce vin soient une victoire, une délivrance, une libération. Oui, Dieu va vous parler, sois intègre. Dieu va vous dire oui. La circoncision, réfléchis à ce que ça veut dire. Couper tout autour, que toutes les choses autour de moi qui sont mondaines, il faut que je m'en sépare. C'est ça la circoncision, elle n'a rien à voir avec la circoncision physique. C'est une circoncision spirituelle. Mes enfants, ma femme, oui, tu peux changer mon nom, ah ben c'est clair, que de ronchon que je suis, tu pourrais m'appeler fidèle peut-être. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous regarde, je vous assure, c'est vrai. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Les regards de Dieu parcourent la terre et en même temps, il voit tous les fils de l'homme. Ça nous dépasse un peu, ça. C'est bon, c'est pas grave. Mais Dieu voit tous les chrétiens, tous les hommes sur la terre en même temps. Il est Dieu, il est esprit et il voit ceux qui veulent avoir un cœur entier pour lui. Pas un cœur entier de 9h30 à 11h30, un cœur entier toute la semaine, jour et nuit. Alors mettons notre vie en ordre. mettons notre vie en ordre. Et Dieu va nous reparler. Que son nom soit béni.